RCF.
À l'occasion du pardon de Saint-Yves à Tréguier, en ce mois de mai où nous fêtons Saint-Yves, nous allons nous arrêter sur un livre qui a été traduit par Jean-Paul Le Guillou, un livre intitulé « Saint-Yves de Tréguier, enquête canonique sur la vie et les miracles d'Yves Ellory de Kermartin », qui fut instruite à Tréguier en 1330 pour redonner les dates de Saint-Yves, naissance en 1253, mort en 1303, et il a été canonisé en 1347. Alors, cette traduction des écrits sources, nous allons en parler avec Yves Saoud, qui est prêtre de notre diocèse, bibliste, et qui s'intéresse à Saint-Yves, étant donné son prénom, bien évidemment. Alors, Yves, on peut dire que cette publication de la traduction de cette enquête canonique aux éditions de l'Harmattan l'année dernière est un peu un événement.
Je crois, parce que la traduction était disponible plus ou moins depuis quelques années, mais elle était un peu confidentielle. Là, elle est quand même présentée maintenant par un éditeur de Paris qui a des réseaux et qui le présente d'une manière aussi bien présentable.
Alors, il faut dire que c'est le document source. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de manière générale dans ce document?
On trouve 243 ou 253, je ne me rappelle plus, de témoignages de gens qui ont connu Saint-Yves, pour certains d'entre eux, parce qu'il est mort à 50 ans, donc ceux qui étaient jeunes peuvent encore témoigner 27 ans après, quand l'enquête a lieu. Et il y a aussi des témoins qui ont vu des miracles, soit pendant la vie de Saint-Yves lui-même, soit après sa mort, jusque même les jours qui précèdent l'enquête.
Et en fait, ce document, c'est celui qui avait été transmis à Rome pour le procès en canonisation?
Alors, le pape était à Avignon, et il a envoyé deux évêques faire l'enquête, avec un père abbé également, et des notaires royaux, des notaires aussi ecclésiastiques, et des traducteurs du breton. Ça a été vraiment quelque chose de sérieux. Et l'enquête a été rédigée sur des peaux de moutons cousues ensemble qui sont perdues. On ne peut plus retrouver ce document. Mais une copie a été faite immédiatement qui était dans les archives de Saint-Brieuc. Mais les bibliothécaires croyaient que c'était un document très partiel où il manquait beaucoup de pages jusqu'en 1887, où un historien de la Borderie a regardé ce manuscrit de près et s'est aperçu que c'était une copie complète du rapport des deux évêques et du père abbé qui avait été remis au pape.
Et il va en faire une traduction latine.
Alors le document était en latin, les notaires écrivaient en latin, et Jean-Paul Le Guillou, donc seulement
En 1989,
oui, puis il publie une traduction française, mais qui est restée assez confidentielle. Donc maintenant qu'elle est publiée par l'éditeur L'Harmattan, c'est vraiment un événement.
Alors, il faut dire qu'avant, il y a eu aussi un moment important, en 1954, et vous avez d'ailleurs l'exemplaire qui est là, Fête et Saison fait un numéro sur Saint-Yves.
C'est Michel Carouge, un écrivain qui a été en lien avec le surréalisme et qui après a été directeur de cette revue Fête et Saison. Il a fait lui-même donc un numéro remarquable. Il dit avec modestie qu'il n'a choisi dans les témoignages latins, puisqu'à son époque il n'y avait pas encore la traduction française de Le Guillou, il n'a choisi que quelques témoignages, mais il a vraiment bien choisi les plus remarquables.
Voilà, et donc ça a été la première étape. Après, il a fallu attendre 1989 et puis cette édition de 2015 qui est quand même intéressante pour tous ceux qui veulent chercher, écrire autour de Saint-Yves.
C'est la seule source parce que Saint-Yves n'a laissé aucun écrit. On dit qu'il prêchait quelquefois plusieurs fois par jour dans des églises où il allait à pied de l'une à l'autre, mais on n'a aucun écrit de Saint-Yves. On a uniquement cette enquête canonique, mais faite avec un sérieux incroyable pour l'époque.
Alors, il faut dire que quand on voit la date de sa mort et la fin du procès en canonisation, c'est un délai assez court, finalement.
L'enquête a eu lieu 27 ans après sa mort, à la demande de l'évêque de Tréguier et de beaucoup d'autres notables bretons. Et le pape qui était alors à Avignon, Jean XXII, a donc envoyé une délégation importante pour faire l'enquête, 27 ans après la mort de Saint-Yves. Et la canonisation a eu lieu 17 ans après la remise de l'enquête au pape. En fait, elle aurait pu avoir lieu même plus tôt, mais la guerre civile s'est déclarée en Bretagne entre Montfort et Blois. Et ce qui est remarquable aussi, presque incroyable là aussi, c'est que ces deux prétendants se sont mis d'accord pour, en pleine guerre, pour demander au pape encore de dater la canonisation. Et l'un d'entre eux a même versé 2 000 ou 3 000 florins pour que la canonisation ait lieu.
Thank you.
sur RCF, rencontre avec Yves Saout à propos d'un ouvrage paru aux éditions de l'Harmattan en 2015, traduit par Jean-Paul Le Guillou, Saint-Yves de Tréguier, enquête canonique sur la vie et les miracles d'Yves d'Élorie de Kermartin, qui fut instruite à Tréguier en 1330. Alors, peut-être si vous aviez maintenant, Yves Saout, à nous dire en quelques mots quelles furent les grandes étapes de la vie de Saint-Yves.
Il est allé très jeune étudier la théologie et le droit à Paris. Il a peut-être eu saint Thomas d'Aquin comme professeur. Puis il est allé à Orléans se perfectionner encore en droit civil et en droit ecclésiastique, en droit canonique. Puis il a été official de l'évêque de Rennes, de l'archevêque de Rennes, mais sans être encore ordonné prêtre. Et quand l'évêque de Tréguier l'a rappelé dans son diocèse d'origine, il l'a ordonné prêtre, l'a nommé official aussi, et lui a confié une paroisse. Mais quand il est arrivé à Tréguier, il avait encore de beaux habits d'official, de juge ecclésiastique, et il a raconté à l'un des témoins que c'est en écoutant des leçons d'écriture sainte chez les franciscains à Rennes qu'il a commencé à vouloir mener une vie plus austère. Et finalement, il a donné ses beaux habits aux pauvres et il a revêtu un habit du genre des franciscains d'ailleurs. Mais il était réputé aussi pour rendre justice. Et à cette époque-là, tous ceux qui touchaient aux questions de mariage revenaient au juge ecclésiastique. Donc les terrains, les héritages, tout cela, c'était du ressort du juge ecclésiastique. Et Saint-Yves avait la réputation d'essayer de mettre d'accord les plaignants, au lieu de décider par une décision de justice qui avait tort, qui avait raison, il essayait de les amener à se mettre d'accord.
Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, d'après les témoignages, qu'il arrivait à permettre justement à ces plaignants de se mettre d'accord? Qu'est-ce qu'il mettait en avant?
Des témoins ne le disent pas tellement les détails. Hein. Ils disent, il y a une dame qui dit, mon mari avait un procès avec un tel, et puis Saint-Yves a réussi à les mettre d'accord, mais on ne sait pas comment. On sait qu'il priait beaucoup pour cela. Et des témoins disent qu'ils l'ont vu prier la nuit, ou lire aussi sa Bible la nuit d'ailleurs.
Qu'est-ce qui a fait justement que sa réputation s'est vite répandue?
Bien, sa vie très très austère. Il jeûnait presque, enfin il mangeait du pain et de l'eau tous les jours, mais pas guère plus. Même quand il était invité chez des nobles ou chez des bourgeois, il ne mangeait guère. Et il jeûnait complètement certains jours. Il y avait aussi le fait qu'il était toujours suivi par des pauvres qui attendaient une aumône, et il prenait sur ses biens personnels parce qu'il était quand même de la petite noblesse et il avait un manoir, mais il prenait aussi sur sa solde, sur son salaire d'official. Et donc il était toujours en train de même de donner à manger aux pauvres dans son appartement personnel. Quelquefois il s'asseyait à terre au milieu d'eux, et les témoins ont remarqué qu'il s'occupait en particulier des plus repoussants parmi ces pauvres.
Saint-Yves, un homme qui a aussi circulé plus loin que le diocèse de Saint-Brieuc-Tréguier.
Surtout dans sa jeunesse. Ensuite, pour rendre la justice ou prêcher, il a sans doute débordé un peu aussi des frontières du diocèse de Tréguier. Mais on sait qu'il se proposait comme avocat aux pauvres, parce que la profession n'existait pas à l'époque, et donc les riches se payaient des étudiants en droit comme avocats, et les pauvres étaient obligés de se défendre eux-mêmes. Alors Saint-Yves leur faisait jurer sur la Bible que leur cause était juste, qu'ils étaient innocents, et ensuite il les défendait gratuitement. Donc quand il n'était pas pris par son travail de juge, il se faisait avocat bénévole.
Alors, j'imagine que le bibliste que vous êtes est touché aussi quand des témoins racontent que finalement Saint-Yves était un lecteur de la Bible. Est-ce que c'était le cas pour beaucoup à l'époque, pour beaucoup de prêtres notamment?
Je pense pas, non, mais là on dit que dans sa chambre il lisait la Bible la nuit, mais aussi quand il se déplaçait, il avait avec lui une Bible.
Alors, c'est aussi parce qu'il a rendu la justice qu'il est aujourd'hui le patron des avocats et des hommes de justice?
Oui, parce que c'était son métier aussi, puis parce qu'il l'a fait de manière qui a vraiment étonné beaucoup de gens.
Et qu'est-ce qui fait que finalement ce procès en canonisation a eu lieu si vite après sa mort? Il avait déjà une grande réputation quand il est mort?
Quand il est mort, il avait déjà une grande réputation. Il y a eu une foule énorme à ses obsèques. Et les gens voulaient toucher d'ailleurs son corps, mais aussi parce que déjà de son vivant, il y a eu des miracles d'après les témoins, et après sa mort, alors ça s'est multiplié. Alors ces miracles peuvent nous sembler aujourd'hui un peu, peut-être un peu légendaires, ou on peut les expliquer par des causes naturelles peut-être, mais il faut quand même se rappeler que tous les témoins ont juré sur l'Évangile de dire la vérité. Et les notaires leur ont posé à tous la même question. Est-ce que, d'après vous, la vie de Saint-Yves a été une vie honnête et chaste? Est-ce que c'est de notoriété publique, le miracle que vous racontez? C'est un peu lassant de lire les témoignages à cause de ces répétitions que les notaires ont provoquées. Mais il y a un index à la fin du livre qui permet de retrouver les noms des témoins et aussi les lieux qui sont cités dans les témoignages, en particulier pour les miracles. Alors pour les Finistériens, j'ai relevé les noms qui apparaissent dans les témoignages. Il y a par exemple Guy Clan, Guy Maec, Kérien, alors c'est avec un K, mais c'est marqué diocèse de Quimper. Landelot, Lanmeur, Le Tréhou, Plouégat-Guéran, Plouganou, Plougastel-Daoulas, Ploujean, Plounévé, alors est-ce que c'est Plounévé du Fou? En tout cas, le miracle a lieu à Poulaouen, donc c'est probablement Plounévé du Fou. Plouzévédé, Poulaouen, Quimper et l'abbaye de Sainte-Marie du Relec, diocèse de Quimper. Selon un témoin, diocèse de Léon, selon un autre témoin.
Voilà, alors est-ce que vous avez en tête, Yves, l'un ou l'autre miracle qui est raconté dans cet ouvrage et donc dans ce procès en canonisation et qui est attribué à Saint-Yves?
Il y a plusieurs miracles de sortie de la noyade, en particulier à Poulaouen. Donc, un homme dit qu'il avait travaillé pour un four, il avait très chaud, il est allé se baigner dans l'étang de Poulaouen et il s'est noyé. Et les témoins qui ont vu qu'il était plongé dans l'eau et qu'il n'en sortait pas ont invoqué Saint-Yves. Et on a réussi à le ramener au bord et il a repris vie d'après les témoins.
Alors, on a dit les dates de Saint-Yves, 1253-1330. Les moyens de communication ne sont pas importants. Et c'est là qu'on voit que sa réputation, elle avait déjà circulé à l'époque. Parce que quand vous parlez de Poulaouen, du Tréhou, elle est venue jusque loin dans le Finistère, alors que les moyens de communication n'étaient pas si faciles que ça.
Et comme c'est des miracles qui sont racontés dans ces lieux-là, ça devait encore circuler largement autour, quoi. Ouais. C'est sûr, il a eu une réputation incroyable. Et on avait peut-être un peu oublié le caractère exceptionnel quand même de cette enquête de canonisation qui était une des premières, je pense.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour achever cette émission sur l'actualité de la vie et du message de Saint-Yves pour notre société aujourd'hui?
Bien, toujours dans le domaine de la justice, hein, on a encore beaucoup de progrès à faire. Également, pour les prêtres, en tout cas, cette prière constante qu'il avait, puis cette lecture de la Bible, ses prédications. Malheureusement, on n'en a pas gardé de traces, mais les gens le suivaient quelquefois d'une église à l'autre pour entendre encore la même prédication ou une autre différente. Mais je crois qu'il y a des excès, peut-être comme Saint Benoît Labre, à la fin de sa vie, au moins il avait des poux et il refusait qu'on les lui enlève. Il disait, il les remettait à l'intérieur du col en disant « ils sont là pour mon cadavre futur ». Bon, ça nous paraît vraiment excessif aujourd'hui, mais c'est le Moyen-Âge. Hein.
Et c'est pour ça qu'il garde finalement cette ferveur en Bretagne. Il est le patron secondaire de notre région, à votre avis?
Je pense, oui, quand il est mort et qu'il a été canonisé, il n'y avait pas encore la découverte de la statue de Sainte-Anne par le paysan de
Nicolas Zic.
Nicolas Zic. Et donc, si Sainte-Anne est devenue la patronne principale, je pense que Saint-Yves reste quand même cher aux Bretons. Et quand le conseil régional a décidé d'établir une fête des Bretons, un peu à la manière de la fête des Irlandais avec la Saint-Patrick, ils l'ont fixé finalement aux alentours du 19 mai, même si le caractère laïque de notre société empêche de fêter ça précisément le 19 mai. Alors on fait la fête entre le 14 et le 22, bon, mais c'est quand même à cause de Saint-Yves qu'elle est là, cette fête.
Yves Saoud, merci beaucoup. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Saint-Yves de Tréguier, enquête canonique sur la vie et les miracles d'Yves et Laurie de Kermartin. Et c'est traduit par Jean-Paul Le Guillou et paru aux éditions de l'Harmattan en 2015.
Je recommande aussi beaucoup le Fête et saison de Michel Carouge. Il est vieux, mais je pense qu'il est dans la bibliothèque diocésaine et peut-être dans beaucoup de bibliothèques paroissiales ou religieuses.
Et il est possible que ce numéro de Fête et saison consacré à Saint-Yves, on le trouve aussi dans les archives numérisées de la bibliothèque de Quimper.
God.